Chacune. Le Seigneur nous parle de diverses manières et ce matin, au travers de la parole, je pense, sa parole, pas la mienne, il va certainement nous encourager, nous parler. Rappelez pour ceux qui étaient là la semaine dernière qu'on a vu, alors oui, excusez-moi, vous avez compris qu'il y a le locataire se porte bien, mais la maison est un peu délabrée aujourd'hui. Hein. Voilà, vous avez compris qu'il y a un petit problème technique, vous avez bien compris. C'est pas ma femme, je vous promets, quoique des fois. Là, je plaisante. La semaine dernière, on a vu « en toi, je suis ». Et on avait vu que le mot hébreu « en toi », « je suis » ou « vrai », la vérité de ce que l'on est, la séité, la qualité du soi, c'était, on l'avait vu ensemble, c'était les lettres associées. La première lettre, c'est « Aleph » en hébreu. Le peu que je connais, il faut que je le sorte, hein, en hébreu. « Aleph ». « Aleph », ça signifie « Dieu ». Et la vérité, elle ne se trouve qu'en Dieu. Et la vérité de même qui l'on est, qu'est-ce qu'on est et qui on est sur cette terre, notre identité en Dieu, se trouve en Dieu. Et la vie véritable, excusez-moi, je me mets comme il faut, parce que, voilà, la vie véritable ne se trouve qu'en Dieu, alléluia. Ça veut dire que quand on est dans la vie ici-bas, sans Dieu, on se pose des questions, pourquoi j'existe, pourquoi je vis, qu'est-ce que je fais sur terre, quel est le but de ma vie. Toutes les questions existentielles de chacun d'entre nous. Hein, je vous les ai posées, j'espère, du moins. Sinon, il y a un souci. Hein, on se les a posées. Mais s'abuter un petit peu sur notre perception de nous-mêmes, sur les circonstances, et selon l'éducation, selon le contexte de vie, ça a amené certaines choses. Mais voici que Dieu dit, et il dira à Moïse, hein, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon ?» Et Dieu de lui dire « Je serai avec toi, je serai avec toi. » Et plus loin, il dira « Je suis celui qui suis ». Et notre identité se trouve en Dieu, en Jésus, la véritable identité. On a toutes nos réponses à nos questions existentielles. D'où je viens ? Bon, ouais, c'est de mes parents, bien sûr. Je suis né et procréé par mes parents, bien évidemment, mais je viens aussi de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui donne le souffle de vie. J'aurais pu être mort-né, comme beaucoup d'enfants, malheureusement. Mais Dieu donne la vie. Et Dieu a un désir de donner la vie, une vie particulière aux êtres humains. Donc, toutes les questions existentielles, si on est, vous vivez, vous, peut-être que nous visitez ou êtes connectés, vous ne savez pas vraiment qui vous êtes encore, même âgé, sachez qu'en Jésus, vous êtes un enfant de Dieu, si vous le voulez. En Christ, vous avez la vie nouvelle. Et vous avez un Père céleste qui, lui, sait bien plus qui vous êtes que nous-mêmes, ce que l'on sait de nous-mêmes. Alléluia. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'était la semaine dernière. Je ne l'ai pas amené comme ça, mais vous l'avez compris. Mais aujourd'hui, je voudrais continuer en disant « En toi, je vis. En toi, je vis. En Dieu. En toi, mon Dieu. En toi, Jésus. En toi, je vis par l'assistance de ton esprit dans mon cœur. » Et je voudrais l'aborder au travers de certaines situations du livre de Daniel. Ce que Daniel va vivre, alors vous connaissez des versets qu'on connaît par cœur du livre de Daniel, et d'autres qu'on connaît moins. Le premier, et merci de l'afficher, super, c'est celui-ci, dans chapitre 1, verset 8. Vous savez que, peut-être pour replanter le contexte, Nebuchadnezzar est venu de Babylone, a envahi le peuple, est venu et a conquis, je dirais, les territoires du Juda et d'Israël. Et voici qu'il va, comme ça se faisait à l'époque, prendre, donc tuer des gens, mais aussi prendre des champs, des fils de notables, pour les formater à leur culture. Donc ils vont prendre plein de juifs, les prendre, les amener à Babylone, et puis là, faire participer à la vie. Il y a la science de la Babylonie pour que justement ils soient imprégnés de la culture babylonienne et en même temps qu'après ben, ça prenne de l'ampleur dans tous les pays, etc. C'était une stratégie de l'époque et ça marchait assez souvent. Et il nous est dit, alors que Daniel est là à la cour du roi avec ses amis à Babylone, on leur donne à manger des choses et voici qu'on leur donne à manger de la viande. Alors là, c'est pas. Hein, mais Daniel, il dit non, cette viande est sacrifiée aux idoles. Il dit pas ça comme ça, mais on le comprend. Cette viande est sacrifiée à leur divinité, donc je ne veux pas manger. Et la Bible dira ceci, et Daniel résolut de ne pas se souiller dans son cœur, ça c'est une version plus récente, mais moi je vous le lis dans une autre version, Daniel arrêta dans son cœur qu'il ne se souillerait point par les mets délicats du roi et par le vin qu'il buvait. Il demanda au prince des eunuques de lui permettre de ne pas se souiller. Vous savez, il refuse au responsable qui est là, ils sont plusieurs, ils ne sont pas que quatre, ils sont plusieurs, ils refusent de manger ces viandes sacrifiées aux idoles. Alors là, il aurait pu se mettre en porte-à-faux, d'ailleurs, ça va engendrer des difficultés. On lira une autre fois le passage, vous pouvez le lire vous-même. Hein. « En toi, je vis », c'est là le titre de ce que je veux partager ce matin de tout mon cœur, « En toi, mon Dieu, je vis ». Mais en toi, je vis pour t'honorer, et pour t'honorer, je veux me préserver. Ici, Daniel, malgré qu'il soit transplanté dans une autre culture, malgré qu'il peut-être y ait plus des gens de sa famille, plus de contexte un petit peu ambiant qui était là, religieux, etc., lui, Daniel, il se dit, je n'ai pas le droit de faire ça avec ses amis. Ils se disent, non, c'est pas ça, c'est pas bien. Il faut qu'on respecte et on honore Dieu. Hein? Et il dira, Daniel arrêta dans son cœur qu'il ne se souillerait point. Dans son cœur. Vous voyez, la première étape, c'est dans son cœur. C'est une décision personnelle. C'est une décision de ne pas vouloir se souiller. Se souiller, peut-être c'est un mot français ancien pour certains, alors je me permets de le rappeler ce que ça veut dire. Se souiller, c'est se salir, par exemple. Salir un vêtement, c'est déshonorer une réputation. J'ai regardé les définitions. C'est salir, et c'est impressionnant, c'est salir aussi d'excréments. Par exemple, vous savez qu'à quelqu'un, dit il a souillé son lit d'excréments ou d'autres choses. Ici, il ne voulait pas se souiller avec ses viandes sacrifiées aux idoles. Et il va sacrifier aux divinités païennes. Il va de ce fait se positionner. Et en mangeant ses viandes, il était persuadé de se compromettre dans son cœur. Hein, voilà. Alors vous allez me dire, oui, mais ceci, cela, on pourrait dialoguer et discuter sur le sujet de certains sujets qu'on m'a posé, même en préfecture, il y a quelques années en arrière ici, en disant certaines choses. Bon, bref. Dans l'Épître aux Corinthiens, on ne l'a pas mentionné, je vais vous le lire, 1 Corinthiens 10, 19, il nous est dit, « Qui dis-je donc que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose ? Nullement. Je dis que ce que l'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons, vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons, vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. » Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur, sommes-nous plus forts que lui ? Donc nous voyons qu'il y a cette notion aussi dans le Nouveau Testament, mais d'une certaine manière, je ne vais pas y rentrer de plus. Je voudrais être concret dans ce qu'on va partager. Hein, je vous rappelle, en toi je vis pour t'honorer, et comme je veux t'honorer, je me préserve. Comme je veux t'honorer, parce que je sais que tu es Dieu, je sais que tu sais tout, je sais que tu vois tout, je vais tout faire pour, dans mon cœur, prendre une décision de me tenir devant toi et de t'être fidèle. Hein ? Dans ce monde, aujourd'hui, se préserver, c'est pas simple. Hein ? C'est pas simple. Que de choses peuvent souiller notre cœur. C'est pas vrai ? Hein ? Que de choses. Que de choses viennent souiller notre cœur. Il y a des choses évidentes, des choses qu'on pourrait citer, on pourrait faire une liste, mais est-ce que c'est utile ? On est, je crois, tous conscients de ce qui peut souiller notre cœur. C'est pas vrai ? On est tous conscients de ce qui peut imprégner notre cœur et qui n'est pas bon. Mais dans nos relations, parfois il peut y avoir, alors que je parle de relations humaines, hein, je ne parle pas ici seulement, hein, dans nos relations, il y a beaucoup de choses qui peuvent être là, des choses qui sont compliquées. Par exemple, vous avez des gens, ils sont racistes jusqu'au bout des ongles, ils ont une haine pour les autres, hein, on sait très bien que ça pollue l'existence, que ce n'est pas ce que Dieu veut. Il y en a qui ont de l'amertume toute leur vie sur des choses, sur leur lit de mort encore, ils ont des traînes, des casseroles de famille qui datent depuis deux ou trois générations, et ils sont encore dans l'espèce d'amertume, j'en ai vu malheureusement, des gens qui sont comme ça, au lieu de réparer, de restaurer, peut-être de pardonner. Il y en a d'autres qui sont infectés par la jalousie. Ils sont jaloux de tout. Ils sont jaloux que l'autre prospère. Jaloux de l'autre, il a ceci. Ils sont jaloux en permanence. Il y a une espèce de mal-être intérieur qui existe. D'autres, c'est toujours insoumis aux autorités, insoumis au patron, insoumis à tout le monde. Parce que c'est sa nature de se rebeller pour tout et contre tout. Et en permanence, que de choses souillent notre cœur. Que de choses peuvent polluer l'existence. Que de choses et que d'attitudes dans nos relations, mais aussi dans ce que l'on regarde ou ce que l'on pense. Ça ne vous arrive jamais de dire « Ah non, je ne devrais pas penser comme ça ». Dites-moi, levez la main si c'est votre cas. Ah, vous avez pas, je répète. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'écoutent pas alors. Hein. Vous n'avez pas osé. Ça ne vous arrive jamais de penser des choses et vous dites « Oh, je ne devrais pas penser ça ». Levez la main si vous êtes d'accord. Hein. Soyez courageux. J'espère qu'il y a beaucoup de mains levées, hein. Voilà, baissez la main, mais vous savez très bien que là-dedans, c'est un combat. que là-dedans, c'est le terrain du combat spirituel. Vous savez très bien que l'ennemi aussi nous envoie des pensées, des fois néfastes, pas que l'ennemi, des fois de notre chair, de notre vie. Et nous avons des pensées qui peuvent être terribles, parfois. Mais nous ne voulons pas nous souiller. Alléluia. Nous ne voulons pas nous souiller. Nous voulons, si ce jeune homme, dans un contexte de vie bien loin de sa famille, déporté, comme Joseph et tant d'autres, il prenne des résolutions pour tenir ferme dans le Seigneur, le Seigneur honore la foi. Et vous qui êtes jeunes et moins jeunes, nous qui sommes jeunes et moins jeunes, non, je m'embrouille, hein, mais nous qui sommes jeunes et moins jeunes, nous voulons nous résoudre, nous déterminer à ne pas nous souiller pour la gloire du Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'on y arrive par nous-mêmes. Hein. Ça veut dire qu'en lui, je vis. Et en lui, je suis rendu capable de résister. En lui, je suis rendu capable de faire face. Vous savez, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, je crois qu'il y est, je vous l'avais dit, 12, verset 1, vous l'avez ici, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, qu'est-ce qu'il est dit là ? Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Vous voyez, les fardeaux et les péchés, ça nous enveloppe facilement. Il suffit de vivre, normalement, et voici que vous avez tout un tas de choses qui viendraient encombrer notre esprit, ou même nos circonstances, ou les choses, les situations, un coup de fil, etc. Ça encombre la tête, ça encombre le cœur, et ça nous enveloppe si facilement. Et là, je n'ai pas envie de vous faire lever la main, parce que vous allez tous lever la main, j'espère. Hein, vous allez dire oui. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il nous est dit ? Il nous est dit de le rejeter. Hein, rejetons tout fardeau. C'est une décision personnelle, parce que Dieu ne fait pas notre place. Dieu ne nous dit pas, tiens, je t'ai sauvé, je te mets dans un cocon là-bas. Vous savez, ça c'est l'esprit sectaire. On vous met à part, on fait croire que ça sera différent. Ça c'est la secte, c'est carré coupé en latin. Hein. Ça c'est la secte, on vous met à part, on vous enferme, on vous fait croire des chimères. Mais la parole de Dieu, c'est pas vous met à part dans ce monde, en disant, mais toi, vite, va à l'église, enferme-toi, vis, achète la maison à côté de l'église, et vis à l'église. Heureusement, parce que ce serait que des quartiers de chrétiens, je ne sais pas comment ça se passerait. Parce qu'on est encore là, un être humain. Hein. Parce qu'encore, comme je le disais tout à l'heure, l'habitation, elle a des soucis. Hein. Il nous faut rejeter tout péché qui nous enveloppe si facilement. Toute mauvaise pensée. L'enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui est, excusez-moi le terme, qui est faible dans le sens de aucune volonté. Bien au contraire. L'Esprit de Dieu donne cette force pour nous positionner. L'Esprit de Dieu nous encouragera à aller plus loin. Permettez-moi, et là, il ne sera pas mentionné, c'est un Pierre 5 va dire ceci, j'en ai pris quelques-uns, mais il y aurait tant de versets à donner. Il va dire ceci, l'apôtre Pierre, Pierre 5, verset 3, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, etc. En fuyant. Et nous voyons que la Bible ne va pas dire « Pousse-toi, je vais faire à ta place, moi, tu vas voir, Dieu nous dit ça. » Non, la Bible dit « Détermine, rejette, fuis, résous-toi, détermine-toi, engage-toi. » La Bible nous invite à faire un pas, à prendre une décision de cœur. Pourquoi ? Parce que quand Dieu nous demande de faire quelque chose, il nous donne toujours la capacité de le faire par sa grâce. Alléluia. Donc des fois on dit, mais moi je ne suis pas capable, des fois je parle à des personnes, elles me disent, mais tu comprends, tu ne peux pas comprendre, je ne suis pas capable. Et je dis, oui, au bout d'un moment j'ai oui, mais à un moment donné dans mon cœur, je dis non. Parce que je dis, ça c'est ta nature, ça c'est ma nature avant, mais quand Christ vient en toi, tu es rendu capable par sa puissance. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de faiblesse, ça veut dire qu'il faut travailler à certaines choses, mais voilà. Hein. Donc, pour honorer le Seigneur, je veux me préserver de me souiller. Ça ne veut pas dire que je vais y arriver en tout. Hein. On est conscient que des fois, c'est compliqué. Et nous avons besoin de vraiment comprendre ces choses. C'est en lui qu'on trouve la force d'être préservé. Qu'on se le repent. Ce n'est pas nos bons vouloirs personnels, une bonne disposition seulement de cœur. Mais c'est sa grâce. C'est sa grâce. Hein. La Bible dira qu'il faut être rempli de la connaissance de sa vérité. Je, Je ne vais pas vous le lire, Colossiens 1, 9 jusqu'au verset 11. Il nous dira « Demandez que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. » Pourquoi ? Parce que si je connais ce que Dieu me dit vraiment pour moi, ça va me donner à dire ben, « j'ai raison de me positionner comme ça, je dois me positionner comme ça ». Ça va m'encourager, ça va m'encourager. Je ne serai pas passif. Parce que des fois j'ai l'impression, je vais parler de moi, si vous voulez, comme ça je mets personnellement à l'aise. Mais j'ai l'impression que des fois je demande à Dieu de faire des choses qu'il me demande de faire. Et ça, il ne le fera pas. Lui, dans le cœur du Seigneur, il sait très bien ce que je dois faire et ce que lui doit faire. Mais lui, il a déjà fait beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et des fois, mon frère, ma sœur ne dit pas, oui, mais c'est, comment dire, notre négligence, c'est une négligence. Il faut la reconnaître, il faut demander la force du Seigneur pour y faire face. Hein, c'est lui qui remplit, nous voulons que notre cœur soit rempli de lui. Hein. Vous savez, quand la Bible dit, dans Galates chapitre 5, verset 14, je ne sais plus si je l'ai mis, jusqu'au verset 17, hein, « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais si vous mordez, vous dévorez les uns les autres, hein, prenez garde que vous soyez détruits les uns par les autres. » Et puis il va dire ceci, « Je dis donc, vas-y, continue, c'est ça, merci, « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de quoi ?» De la chair, car les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux, afin que nous fassiez point ce que vous voudriez. En fait, se déterminer pour le Seigneur, c'est une prise de position, mais c'est comme un combat, une lutte intérieure, mais aussi une dépendance de Dieu pour faire face et pour gagner. En lui, la Bible dira, dans l'épître aux Philippiens, c'est Dieu qui produit en vous, quoi donc ? Le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Vous voyez ? Comment je peux résister, comment je peux ne pas me souiller en me déterminant pour Dieu, mais en étant conscient que par moi-même je ne vais pas y arriver, mais j'ai besoin de tourner mes regards vers Dieu et de dire « En toi ». C'est pour ça que j'ai appelé ce message « En toi je vis ». En toi je vis ce que tu veux que je vive. En toi je peux résister, en toi je peux m'humilier pour retrouver le chemin. En toi je peux vivre dans ta grâce et dans ta puissance. En toi je veux me préserver pour t'honorer, je veux me préserver également de l'orgueil. De l'orgueil. L'orgueil, je ne suis pas sûr qu'on ait tous la même définition, parce que ça, c'est quand même assez tentaculaire, l'orgueil. Mais je ne vais pas la définir, parce que ce n'est pas le sujet. Nous avons besoin de considérer ces choses. Rappelez-vous, dans le livre de Daniel, on a parlé l'autre dimanche dernier, je crois d'ailleurs, de Nebuchadnezzar. Vous vous rappelez Nebuchadnezzar ? Ah, tout ce que j'ai, tout ce royaume que j'ai, c'est formidable, c'est moi. Pourtant, il a été prévenu. Par le songe. Et Daniel lui dit attention, hein, repends-toi, change d'attitude. Lui, il n'a pas changé. Et quelques temps après, il s'enorgueillit, puis il devient comme un animal hein, pendant quelques temps, 7 ans. Alors, je sais pas, on ne va pas dire 7 années, je ne veux pas trop m'engager là-dessus. Hein. Ça sera, comment dire, on va s'en rappeler là, dans la prochaine lecture qu'on va faire. On va la faire ensemble, parce que vous allez ouvrir la Bible avec moi dans le livre de Daniel, maintenant au chapitre 5. Alors je me permets de survoler le livre de Daniel, hein, mais si vous avez l'occasion, lisez-le. Il est assez spécial. Chapitre 5. Alors peut-être la lecture sera un peu longue, mais je vous invite à considérer l'orgueil ici, mais aussi la grandeur de Dieu et ce que Dieu va faire. Le roi Belshazzar, vous pouvez suivre avec la vidéo, merci à la technique. Le roi Belshazzar donna un grand festin assez grand au nombre de 1000. Et il but du vin en présence de ses 1000. Belshazzar. Alors Belshazzar ici, c'est le petit-fils de Nebuchadnezzar. Hein. Belshazzar, après avoir goûté au vin, ordonna d'apporter des vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi y boive, ainsi que ses femmes, ses concubines et ses grands. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Le roi, ses grands, ses femmes et ses concubines y burent. Ils burent du vin, ils louèrent les dieux d'or, d'argent, de bronze et de fer, de bois et de pierre. À ce moment-là, apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier sur le plâtre de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi pâlit, et ses pensées l'épouvantèrent, les jointures de ses reins se relâchèrent, et ses genoux s'entrechoquaient. Le roi crie avec force de faire venir les astrologues, les chaldéens, les devins, et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, « Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. » Tous les sages du roi entrèrent, mais ne purent pas lire l'écriture, ni en faire connaître l'explication au roi. Sur quoi le roi Belshazzar fut tout à fait épouvanté. Il pâlit encore une seconde fois, hein, ça c'est dans ma version, il n'est pas marqué seconde fois, mais c'est la seconde fois qu'on voit. Il pâlit et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. « Au roi, vise à jamais que tes pensées ne t'épouvantent pas, tu n'as pas besoin de pâlir. Il y a dans ton royaume un homme ayant en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, alors c'est littéralement de ta famille, hein, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence, une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père l'établit chef des magiciens, des astrologues et des chaldéens, des devins, c'était le roi, ton père. » Alors un peu plus loin, on va aller plus loin, parce que sinon ça va être long, verset 13. « Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Es-tu ce Daniel, l'un des déportés de Juda que le roi mon père a amené à Juda, de Juda ? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux, et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence, une sagesse extraordinaire. » Puis il explique certaines choses, on va plus loin, verset 17. « Alors Daniel répondit en présence du roi, parce que le roi il dit, si tu interprètes, tu seras le troisième de mon royaume, tu auras plein de cadeaux. » Et voici Daniel, il dit au verset 17, « En présence du roi, garde tes dons pour toi, et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi, et je lui en ferai connaître l'explication. Au roi, le Dieu très haut, avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, la royauté, la grandeur, l'honneur et la gloire. À cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples et les nations, les hommes de toutes langues, étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait, et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ce qu'il voulait, il abaissait ce qu'il voulait. Mais lorsque son cœur, rappelez-vous ce qu'on vient de dire tout à l'heure, s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des humains, son cœur devint semblable à celui des bêtes et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger et son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu très haut domine sur toute royauté humaine et qu'il y a place celui, pardon, et qu'il y a place celui qui veut. Ouais, c'est bizarre cette phrase. En toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu aies connu tout cela. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Tu as fait porter devant toi les vases de sa maison, et vous avez bu du vin, toi, tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, de bronze, de fer, de bois, de pierre qui ne voient pas, et qui n'entendent pas, qui n'ont pas la connaissance. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes ses voies. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Méné, Méné, Tekel et Urfarsim, ou Parsine, ça dépend de votre version. Et voici l'explication de ces mots. Méné, Dieu a compté, ton règne y a mis fin. Tekel, c'est pas le chien, hein ? D'accord ? Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Parsine, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belshazzar ordonna de revêtir Daniel de pourpre, de lui mettre un collier d'or et de publier qu'il aurait la troisième place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Hein. C'était long hein, la lecture, hein, mais c'est bon s'arrêter sur cette parole parce que c'est pour nous plein d'enseignements. L'enseignement ici, que je soulève juste, que je souligne, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, c'est que l'orgueil, ça pollue l'existence. L'orgueil souille l'être humain. L'orgueil détruit. L'orgueil, c'est pas obligatoirement toujours parader. L'orgueil, c'est de se croire supérieur à d'autres. L'orgueil, c'est de croire que finalement, on n'a pas besoin de Dieu. L'orgueil, c'est tout un tas de choses. Et ce qui souille l'être humain, c'est parfois l'orgueil. Alors, je vais faire une petite digression qui n'est pas prévue dans mes notes, mais je pense que c'est bien de parler de ça. L'Église, les Églises, c'est le seul endroit maintenant, et c'est pas moi qui l'ai dit, c'était monsieur, l'ancien monsieur maire, M. Bonnecarrère,
Et l'actuelle mairesse, Madame Stéphanie Guéraud-Chemin, qui disait une fois, quand ils sont venus ici après une réunion, ils ont dit ah, « c'est incroyable, toutes les générations dans l'Église ». Et je me rappelle le maire qui était le maire actuel à ce moment-là, de dire « l'Église, c'est celui qui me disait ça ». Les églises, c'est l'endroit où il y a toutes les générations qui sont ensemble. Mais vous regardez dans la société, il me disait « vous voyez plus ça ». C'est vrai. Alléluia. Hein, toutes les générations, toutes les origines. Et soyez le bienvenu si vous êtes d'une origine étrangère, mais avec joie. Parce que le Seigneur, il est pour tout le monde. Soyez le bienvenu. Mais aussi, toutes les générations. Les générations, vous savez, ces temps-ci, alors qu'on faisait l'instruction baptême, et Alain Boissol pourrait le confirmer, on a dit parfois à nos jeunes qui étaient là, et on se réjouit qu'il y ait des jeunes qui se fassent baptiser, allez vers les plus vieux, des fois ils sont contents de vous voir, et les plus vieux, des fois on a envie de leur dire, allez vers les plus jeunes, parce que vous n'osez pas, oh les jeunes ils sont toujours ensemble, et c'est normal, ils sont dynamiques. Hein. Ils sont dynamiques, et ils courent plus vite que vous. Hein. Mais par contre, vous avez plus de vécu. Et la difficulté, ce serait dommage qu'on saucissonne un peu les générations, qu'on dise, bon là, il n'y a que les jeunes. Alors, je suis content, ils sont mis au premier rang. Pour une fois, je me suis rajeuni, j'ai rajeuni, merci, hein. On a bien fait. Hein. Là, il n'y a que les jeunes, et puis nous, c'est là. Non, l'Église, c'est toutes les générations. Et dans la Bible, on voit bien que dans le Nouveau Testament, surtout dans les Épîtres, il est fait mention de transmettre de génération en génération. C'est-à-dire, les plus âgés doivent transmettre des valeurs, non pas des morales, hein, mais des valeurs aux plus jeunes, et les plus jeunes, à leur tour, deviendront plus âgés un jour, on leur souhaite, et mettront et donneront des valeurs. Et ça, c'est une grâce. Mais dans la société, vous remarquez, on met les jeunes de côté, on met les vieux au placard. Excusez-moi, hein, vous comprenez ce que je veux dire. On met tout le monde un peu séparé, on met des fois des clans aussi entre les niveaux de vie, ceux qui sont plus aisés, les notables, et puis les gens un peu plus classiques, ou les pauvres gens. Mais la Bible ne dit pas ça. Et l'orgueil, ce serait justement d'entretenir ces choses. Je pense que c'est important d'y réfléchir. Je ne sais pas tout, j'ai besoin des autres. Et j'ai besoin du conseil de l'autre. Non pas de sa morale, mais j'ai besoin de son expérience spirituelle, qui peut m'aider. Et vous, jeunes gens, on veut vous bénir. Et l'autre jour, on s'est réjouis de vous voir, là, vous étiez nombreux. Hein. Ça nous a tous bien estomaqués. Hein. Mais on vous bénit. On veut que Dieu vous bénisse. Vous bénisse à tous. Afin que vous puissiez être des hommes et des femmes de Dieu résolus, déterminés. Mais nous aussi, plus âgés, je ne sais plus où me situer, nous aussi, plus âgés, nous voulons nous déterminer à ne pas nous souiller, à ne pas accepter que le monde ait raison de notre foi. Mais nous voulons plutôt que notre foi prédomine sur le monde par la grâce de Dieu. Hein ? Ça, c'était mon premier point. Les autres sont bien plus courts, je vous promets. En toi, je vis. Parce que je peux me nourrir, entre guillemets, j'ai mis, de toi. Je peux puiser en toi. Ce qui fait la force de Daniel, c'est pas sa capacité intellectuelle, sa construction mentale, sa philosophie de cœur, je ne sais trop quoi, là, tout ce qu'on entend aujourd'hui qui est livré comme ça en vrac sur les réseaux sociaux parfois, comme si tout dépendait de nous, si nous on était Dieu par nous-mêmes. Non, ça c'est pas biblique. Ce qui fait la force de Daniel, c'est qu'il était pieux. Il avait une piété évidente. Pas une piété conformiste à ce que ses parents lui avaient enseigné, parce qu'il se retrouve dans un autre pays, avec ses compagnons, mais indépendant, tout seul, dans une autre culture, d'autres dieux, d'autres pratiques. Et lui, il n'a pas vécu de religiosité. Mais quand il arrive ici, dans ce pays, bon, le zoom est sur Daniel, mais les autres amis de Daniel étaient aussi des gens fidèles à Dieu. On voit par exemple au chapitre, je vous fais un survol, chapitre 2, Daniel va expliquer le rêve de la statue hein, que Nebuchadnezzar voit, hein, et c'est quand même des choses assez impressionnantes. Et quand il va demander un délai pour expliquer ça, il va dire, quand il vient devant Nebuchadnezzar, qu'il a eu la réponse du songe de Nebuchadnezzar, il va dire, il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les mystères. On comprend bien que Daniel, c'était pas quelqu'un obligatoirement surhomme, c'était un être humain. Mais un être humain qui avait une véritable relation avec son Dieu. Et ce que Dieu nous demande, ce n'est pas juste de venir à l'église, même si c'est très bien, venez à l'église, hein, je ne veux pas être fou. Hein. Venez, mais il y a des réunions le mardi, le jeudi, hein, d'accord, voilà, ça c'est tout à l'heure, les annonces. Venez, mais ayons une réelle piété avec le Seigneur. Ayons cette force de la piété, comme dira l'apôtre Paul à Timothée. Hein, parce qu'il y en a beaucoup, ils ont l'apparence, dira l'apôtre Paul, il y en a, ils ont l'apparence de la piété, mais il y a René qui en fait la force. Et ici, nous avons la démonstration de ce qu'est la force de la piété.
Daniel explique le rêve, chapitre 2. Chapitre 4, il va expliquer le rêve du grand arbre qu'a encore Nebuchadnezzar. Il voit un grand arbre assez particulier. Et d'ailleurs, c'est de là qu'il va avoir l'explication après qu'il doit faire attention. À cause de son orgueil, il risque d'être envoyé vivre comme un animal. Ça, c'est le chapitre 4. Au chapitre 5, durant le repas, c'est ce qu'on a lu, Belshazzar voit la main qui écrit sur le mur. Alors ça, bien sûr, ça terrasse, il a les jointures des genoux, moi ça me ferait drôle maintenant, mais qui tape, hein, qui s'entrechoque, etc. Hein. Et ce chapitre 5, personne a pu, des religieux de l'époque, a pu traduire ou expliquer ce qui était écrit. Personne. Pourtant, c'était des mots. Personne. Seul Daniel l'a fait. Pourquoi? Parce que Dieu a révélé à Daniel. Et c'est que c'est Dieu qui avait écrit à cet homme-là. D'ailleurs, le soir même, il a fini son royaume. Pourquoi? Parce qu'il a, il s'est permis de prendre ce qu'ils avaient pris dans le temple de Jérusalem, d'en faire une fiesta et de, comment dire, insulter Dieu, offenser Dieu par son attitude orgueilleuse et inconsciente. Il est mort cette nuit-là, assassiné. Dans Daniel 6, vous savez qu'il va aller dans la fosse au lion. Hein? Mais ce qu'on sait, c'est que Nebuchadnezzar avait construit une statue, il fallait l'adorer. Celui-là qui ne l'adorera pas, ça va être difficile pour lui, si vous voulez faire ma traduction. Hein. Et on sait que Daniel, il nous a dit, chapitre 6, verset 10, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et trois fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Comme pour dire, le décret de Nebuchadnezzar, où il faut l'adorer, il se prend pour un dieu, moi je ne respecte pas. Il a raison. Il respecte Dieu. Il respecte Dieu. Mais ça lui a valu d'aller, pas caresser les lions, mais de les voir de près. Hein? Et Darius, le roi, est en colère parce que c'est lui qui avait voulu ce décret. J'avais dit Nebuchadnezzar, je me suis trompé, c'est Darius. C'est lui qui avait mis ce décret en place sous la pression d'autres qui étaient jaloux de Daniel. Et comme il a mis ce décret en place, voici qu'on attrape en flagrant délit quelque part Daniel, eh bien, il n'a pas trop le choix. Hein. J'ai dit ça, donc il faut le faire. Il le met là, il est malheureux comme une pierre. Cette nuit-là, il est triste, ce roi Darius, mais le matin, quand il vient un petit peu, bonheur à chance, et puis il entend que Daniel est vivant, je ne vous dis pas. Tous ceux qui l'ont poussé à aller là-bas, à le mettre dans la fosse, c'est eux qui y sont passés, et qui, eux, ont été, ils n'ont pas caressé les lions, ils ont été dévorés par les lions. Tout ça à cause de la jalousie. Donc nous venons, et je fais un petit survol, de voir que Daniel avait une piété évidente. Ce qui fait la force du sarment sur le cèpe, c'est quoi? C'est que le sarment est attaché au cèpe. Ce qui fait ce qui permet que, par exemple, ici, on a de la lumière aujourd'hui. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est parce que tout a été câblé. Oui, oui, mais câblé, mais c'est branché sur le compteur électrique. Hein, je me rappelle un dimanche, il y a certains dimanches, quelques années en arrière, le compteur électrique, pof! Vous vous rappelez, on n'avait plus rien, plus de sono. On était un peu dans la panique. Heureusement, il faisait jour, on a quand même sauvé les meubles. Hein. Ce qui fait la force d'un bateau à voile, c'est quoi? C'est qu'il a beaucoup de grandes voiles, mais s'il n'y a pas le vent, ça ne sert à rien. Hein, ces voiliers, bien sûr, peuvent aller très vite. Vous voyez les catamarans aujourd'hui, ils décollent même de l'eau. Là, vous voyez des trucs dessous, là, c'est impressionnant quand même. Hein, c'est ces choses qui se font aujourd'hui. Et ce qui fait notre force, ce n'est pas nous, c'est lui. Vivons en Dieu. Vivons en Dieu. Alors, vous savez quand on se sent sec, aride dans son cœur? Ça vous arrive, ça aussi, ça m'arrive. Hein. Quand ça nous arrive, mes frères et sœurs, disons comme dira David dans le psaume 143, verset 6, « J'étends ma main vers toi, mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. » Alléluia. « J'étends mes mains vers toi. » Il traversait des temps assez spéciaux, hein, quand même. Quand vous lisez les psaumes, peut-être essayez un jour, si vous le voulez, je l'ai fait, mais je n'ai pas encore fini, c'est de dire les psaumes que David écrit, à quel moment il écrit, pourquoi il écrit, est-ce que c'est dans telle situation, il y en a, c'est évident, d'autres on ne sait pas trop. Mais ici, dans psaume 53, verset 6, il dira « J'étends mes mains vers toi, mon âme soupire après toi, comme une terre desséchée. » Si vous lisez les versets précédents, on voit bien qu'il y a des difficultés. Et dans nos vies chrétiennes, ce n'est pas la vie facile, ce n'est pas le club Med. Ce n'est pas je ne sais trop quoi qui peut être une croisière tranquille. C'est un combat parfois. C'est des épreuves. Mais je me nourris de mon Seigneur. Je me nourris de toi, Seigneur. Et c'est ce qui donne à mon corps. Comme on se nourrit d'aliments, d'ailleurs ça se voit, on se nourrit
de la vie que Dieu nous donne, de la parole de Dieu. Et alléluia. Bientôt fini. En toi je vis et je trouve la force de tenir ferme. Les trois compagnons de Daniel aussi ont subi. Hein. Aussi ils vont être menacés. Il fallait se prosterner devant la statue, ils n'ont pas voulu. Hein. Ça a été compliqué. Vous savez, dans 2 Thessaloniciens, il dit ceci, je crois que tu l'as mis, « Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et il vous préservera de qui ?» Du malin. Alléluia. Prenons ces promesses. Le Seigneur est fidèle. Est-ce que vous doutez de ça? Si vous doutez de ça, vous avez besoin de vous fléchir le genou. Non, il est fidèle, pardon. On ne peut pas douter de sa fidélité. Il vous affermira. Et là, vous qui jeunes de la foi, vous qui allez vous faire baptiser, vous qui êtes baptisé depuis peu, ou baptisé depuis 40 ans ou 60 ans, l'autre fois je vais arrêter parce qu'à chaque fois je fais laver la main, on ne sait plus qui et quoi. Mais alléluia, il nous affermit. Et il nous a fermé. Seulement, je dois collaborer avec ça. Hein, il nous a fermé. L'apôtre Pierre dira dans 1 Pierre 5,10, je ne l'ai pas donné, mais le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Alors nous, on croit que c'est automatique, c'est-à-dire systématiquement, il va le faire ça. Non, il va le faire que dans la mesure, moi aussi, j'ouvre mon cœur, je dispose ma vie, je me détermine. Ah, parce que Dieu, excusez-moi, il n'est pas dans le registre du palliatif, dans le sens de pallier à nos difficultés ou notre responsabilité. Il va plutôt faire l'inverse, c'est-à-dire il va nous travailler au corps pour qu'on assume notre responsabilité. Bon, je finis. Je vous l'ai promis, ce dernier point. En toi je vis, car mon avenir est assuré par ce que tu nous as révélé. Le livre de Daniel, c'est un livre spécial, comme dans beaucoup de livres de la Bible. Hein. Il a été écrit à peu près 600 ans avant Jésus-Christ. Ce livre de l'Ancien Testament est ce que l'Apocalypse est au Nouveau Testament. C'est-à-dire que certains vont dire, et à juste titre je pense, que la précision vont dire, si vous voulez, que c'est l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Voilà, dirons-nous. Ils le disent comme ça. Je trouve que l'image se fait comprendre. C'est que la précision des prophéties concernant le royaume qui vont se succéder à Nébuchadnezzar et toute sa clique, là, ça va couvrir 5 siècles. Et toutes les prophéties qui ont été citées concernant, vous savez, il fait mention de l'ours, du léopard, je ne me rappelle plus, là, je ne l'ai pas relu, mais plusieurs images. Et vous regardez l'histoire à partir de Nébuchadnezzar, vous voyez que vraiment le royaume des Perses et des Mèdes, etc., il y a tout un tas de choses qui vont se passer, et vous voyez vraiment que ce que Daniel, inspiré de Dieu, va dire, ça va se réaliser sur 5 siècles. Mais non seulement il y a ces prophéties qui vont demeurer jusqu'à peu près un peu à l'avant la venue de Jésus, voici que maintenant il y a aussi beaucoup de prophéties, et c'est pour ça qu'on appelle l'Apocalypse de l'Ancien Testament, qui concernent son second retour, c'est-à-dire les moments qu'on n'a pas vécu encore. C'est pour ça que quand on a fait, vous rappeler l'étude d'Apocalypse, ce qui avait été là, quoi l'étude, survoler, sensibiliser à l'Apocalypse, on avait parlé de beaucoup de prophéties de Daniel. C'est vrai, hein? Beaucoup de prophéties de Daniel viennent éclairer l'Apocalypse. Et tant mieux, parce que sinon, déjà, c'est compliqué. Il y a également donc, des prophéties concernant l'eschatologie, c'est-à-dire les temps de la fin. Nous avons accès à toute la Bible, nous. Daniel, comment dire, il lisait certains prophètes, et il n'avait pas beaucoup de la parole. Mais nous tous, on a toute la Bible. Et la Bible donne des prophéties. Alors, qu'on soit clair, il n'y a plus de prophéties annoncées. Hein, d'accord ? On ne peut plus rajouter à la Bible. Hein, la Bible est très claire dessus. La Bible est complète. Et, voilà. Et ce qu'on a comme prophéties, elles sont mentionnées. Donc si vous avez quelqu'un qui vous dit des prophéties qui vont concerner les temps de la fin un peu bizarres, mettez-le au placard. Hein, pas lui, sa prophétie. Lui, vous lui faites salut et au revoir. Pourquoi ? Parce qu'on n'a rien à rajouter à la Bible. Hein. Attention, hein. C'est la Bible qui prédomine, ça c'est clair. Ça sera peut-être un sujet un jour à aborder. Nous avons accès à toute la Bible. Quelle grâce ! Et en lui, en fait, je suis rassuré et je m'aperçois que Dieu est au-dessus de tout, que ça a été planifié depuis des siècles, et que le plan de Dieu, le dessein de Dieu est certain, et que je peux m'appuyer pleinement, assurément, sur ce qu'il me dit. Et quand je suis en combat, quand vous êtes en combat spirituel, moral, quand il y a des souffrances, plein de pensées de doute vont assaillir votre cœur. Mais qu'est-ce que nous devons faire ? Les laisser prédominer ? Laisser nous déstabiliser et abandonner la course ? Non ! Nous les refoulons, parce que la vérité, c'est pas moi,
C'est pas ce que je crois là dans ces instants, c'est ce que je crois dans ce que la Bible dit depuis qu'a traversé les siècles et qui est réel. Alléluia. Hein ? Alors, je vous avais dit, je finis. Je finis par un verset, me semble, qui enveloppe tout ce que l'on vient de partager. C'est dans Colossiens chapitre 2, versets 6 à 10. Quelques versets. De Colossiens chapitre 2, versets 6 à 10. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, si vous l'avez reçu, et si nous l'avons reçu, marchez en lui. Marchez en lui. Étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondés en actions de grâce. Prenez garde. Prenez garde. Vous voyez, j'aime la parole parce qu'elle est, elle est vraiment réelle dans le sens où elle ne cache pas des sentiments ou des choses, des craintes ou des peurs ou du péché. Elle dit la vérité, je dirais, pleinement. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur le rudiment du monde et non sur Christ. Et voici que maintenant, il remet vers Christ. Car en lui, en Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez, dites-moi, vous avez, qu'est-ce qu'on a ? Un peu en lui ? Tout pleinement en lui, en Jésus, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Alléluia, alléluia. On courbe nos fronts, on va prier ensemble. Alléluia. Merci vraiment pour ta parole. Merci de nous avoir communiqué la vérité de qui tu es, de ce que tu attends de nous au travers de ta parole. Et Seigneur, tout ce que tu nous invites à vivre, le chemin sur lequel tu nous invites à cheminer, les choses sur lesquelles tu veux que nous progressions, tu ne nous laisses pas orphelins, tu ne nous abandonnes pas notre sort, sachant que nous ne pouvons pas nous appuyer sur notre chair, sur notre bonne volonté humaine et sentimentale, mais nous appuyons sur toi, parce qu'en toi nous vivons, parce qu'en toi on peut vivre pleinement. Et oui, nous avons tout pleinement en toi pour marcher. Tu nous as donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tu nous as donné tout ce qu'il fallait pour que nous puissions, Seigneur, nous soumettre à ta volonté et te suivre et t'honorer. Et dans ce monde où le péché abonde, nous prions, Seigneur, que nous puissions tenir ferme en toi, ne pas nous souiller, ne pas, Seigneur, demeurer peu à peu être étouffé par le péché, par tout un tas de choses qui nous accableraient. Garde-nous de l'orgueil. Garde-nous, Seigneur, de croire que nous sommes arrivés à quelque chose. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Nous voulons dépendre de toi qui es le cep, et nous, nous ne sommes que des sarments. Et nous voulons recevoir cette vie d'en haut, Seigneur. Nous te louons pour ces réalités. Merci parce que tu perfectionnes, tu affermis nos vies, tu es patient avec nous. Et tu, peu à peu, tu transformes nos vies, tu nous modèles nos âmes. Et tu nous amènes à dépendre de toi de plus en plus. Oui, tu es le vainqueur de Golgotha. Et c'est parce que tu as vaincu que nous pouvons vaincre. C'est parce que, Seigneur, tu nous as donné une vie nouvelle que nous pouvons marcher en nouveauté de vie. C'est parce que tu as tout accompli que nous pouvons accomplir tes desseins. Alors ce matin, nous prions que tu nous aides à tenir ferme face dans la foi, à combattre le bon combat de la foi, à ne pas nous laisser, Seigneur, facilement endormir, envelopper, à ne pas nous laisser, Seigneur, tromper par, Seigneur, tout un tas de choses et fausses doctrines qui sont véhiculées aujourd'hui. Apprends-nous à considérer ta parole avec respect, mais aussi avec intelligence. Oh, à toi toute la gloire. Amen. Amen. Voilà, je voudrais